La première, podcast.
Utopia. Yasmine Boudaka.
Bonjour et bienvenue dans Utopia. Un vent d'optimisme souffle aujourd'hui sur cette émission avec notre invité qui a fait sienne la maxime de Kennedy. Les problèmes du monde ne peuvent pas être résolus par des sceptiques ou des cyniques capables dont les horizons se limitent aux réalités évidentes. Nous avons besoin d'hommes capables d'imaginer ce qui n'a jamais existé. Guibert Delmarmol est économiste de formation. Il a dirigé plusieurs entreprises internationales. Il s'est spécialisé aujourd'hui dans le domaine de l'économie régénératrice. Et selon lui, la crise globale que nous vivons est aussi une incroyable opportunité qui laisse place au changement, à l'innovation et à la créativité. Dans son livre Sans plus attendre, il propose des pistes concrètes pour marier science et conscience et inaugurer un autre monde. Guibert Delmarmol est notre invité. Aujourd'hui, on le retrouve dans quelques minutes. De mariage, il sera aussi question dans la chronique de Caroline Veit. Mariage de l'art et de l'utopie avec le projet d'un architecte, Claude-Nicolas Ledoux. Et puis, pour démarrer cette émission, petit coup de projecteur sur une innovation.
Utopia.
Comment amener les éoliennes en ville? C'est en réfléchissant à cette question qu'une entreprise française a inventé ce qu'elle a appelé l'arbre à vent. C'est une éolienne inspirée par le biomimétisme, donc elle se présente comme un arbre avec un tronc blanc en acier, un tronc de 8 mètres de haut. Et puis au bout des branches, on retrouve une centaine de feuilles qui sont dotées de petits générateurs qui vont s'activer comme des mini-éoliennes. C'est une invention qui existe déjà, en tous les cas deux prototypes se trouvent déjà en France. Philippe Châtelain, vous êtes professeur en mécanique aéronautique à l'UCL. Vous consacrez une partie de votre recherche aux éoliennes. Les éoliennes en ville, c'est quelque chose qu'on étudie vraiment depuis longtemps ?
Oui, en tout cas, on essaye d'adapter peut-être la forme ou le design des éoliennes pour qu'elles soient plus performantes ou plus discrètes pour des vents qui vont être plus turbulents ou changeant dans le milieu urbain. Mmh. On fait aussi évidemment des efforts pour qu'elles soient plus jolies, qu'elles s'intègrent mieux au cadre.
Il y a déjà beaucoup d'éoliennes qui sont intégrées dans les milieux urbains à l'heure actuelle ?
On va dire que le marché du petit éolien n'en est qu'à ses débuts. Donc ouais. Le modèle éolien jusqu'à présent, au cours des 20-30 dernières années, ça a été les grosses machines qu'on connaît tous. Mmh. Maintenant, il y a de fait une espèce d'effort ou de prise de conscience qu'il y a un marché à aller chercher vers le petit éolien pour des PME ou des bâtiments bien précis. Maintenant, le potentiel éolien dans une ville, c'est pas évident non plus, quoi.
Bah, on va y revenir justement avec cet arbre à vent. On peut dire, à vous entendre, qu'il s'agit vraiment d'une innovation, donc, puisque c'est une nouveauté proposée par cette entreprise française. Comment elle fonctionne, cette mini-éolienne, vraiment à l'image de la grande, de la traditionnelle qu'on a l'habitude de voir dans les paysages?
Ah, alors, donc, d'après ce que j'ai vu, ouais. Ici, on parle plutôt de plusieurs petites éoliennes. Hein. Donc, chaque feuille est en fait une éolienne qu'on appelle une éolienne à axe vertical. Mmh. Et ça, ces éoliennes à axe vertical, elles existent depuis très longtemps. C'est ce qu'on appelle les éoliennes Darius, je pense. Et chaque feuille, petite éolienne, va fonctionner comme une éolienne classique, mais à axe vertical. Pour rappel, les éoliennes qu'on trouve dans nos champs ou le long de nos autoroutes, ce sont des grandes éoliennes à axe horizontal. Mmh. Donc l'éolienne à axe vertical, on ne la connaît pas encore très bien, mais on en parle beaucoup. D'ailleurs, elles sont étudiées assez activement dans les milieux de la recherche. Et ici, ce sont des toutes petites éoliennes à axe vertical, et chacune va produire quelque chose. Donc ici, on vend peut-être cet arbre comme une éolienne, mais c'est vraiment une espèce de...
C'est un réseau de petites éoliennes.
C'est une ferme, une ferme d'éoliennes, en fait. Voilà. Distribuée dans le volume des branches, quoi.
Donc ça veut dire que chaque petite éolienne va générer de l'électricité qui va, elle, être... Enfin, toi, va capter de l'énergie qui va, elle, être réunie au sein du tronc de cet arbre, c'est ça?
Alors maintenant, ça, c'est tout le secret de la recette. Ouais. C'est ça, c'est les faire travailler ensemble. En fait, ça, c'est d'ailleurs intéressant. C'est un sujet qui est important pour les grandes éoliennes aussi. C'est... Comment bien réguler un parc éolien pour que les éoliennes travaillent bien ensemble et ne se marchent pas trop sur les pieds? Mmh. Parce qu'une éolienne, et d'après les images que je vois là de cet arbre, c'est qu'une éolienne qui se trouve dans le sillage d'une autre, donc derrière elle, sous le vent d'une autre, si vous voulez, comme un bateau, eh bien, va récupérer moins d'énergie. Et donc, ce qui m'intrigue dans ce design, c'est que, point de vue efficacité, hein, parce qu'elle est jolie, hein, il faut reconnaître
que c'est joli. On mettra d'ailleurs une photo sur Facebook,
ouais. C'est que, ben, si une partie de l'arbre travaille bien, une partie du branchage qui est au vent va bien travailler, la partie qui est du branchage qui est sous le vent va moins bien travailler. Mmh.
Mais justement, vous parlez de vent, Philippe Châtelain, à propos justement de cet arbre à vent qui correspond à une éolienne urbaine. En ville, il y a vraiment un potentiel énergétique lié à l'éolien ?
Alors, il y a des études qui ont eu lieu. Maintenant, ça, je ne connais pas exactement tous les résultats, mais il y en a un, mais c'est limité, on va dire. Ce n'est pas avec ça qu'on va résoudre les grands défis énergétiques de demain. D'ailleurs, je pense que les concepteurs de cette éolienne le conçoivent bien. Ici, on parle de... Enfin, c'est un terme anglais qu'on appelle « energy harvesting ». C'est vraiment aller chercher un petit peu d'énergie à certains endroits où il y en a. Et on parle de c'est des cacahuètes, hein. C'est vraiment très peu d'énergie d'ailleurs. Et là, c'est, l'ambition, c'est d'alimenter des réverbères ou des groupes de réverbères autour de l'éolienne.
Oui. Effectivement. Mais justement, ça ne répondra pas, on l'a dit, aux grands défis énergétiques auxquels nous devons faire face. Cela dit, ça peut être une réponse à l'échelle locale ?
Dans une certaine mesure, oui. Ils ambitionnent de brancher ça à des stations de recharge de voitures électriques. Maintenant, moi, j'ai des doutes par rapport à la puissance effective que ce genre de machine pourra produire à cause des effets que j'ai mentionnés. Et les chiffres de puissance qu'ils avancent sont assez ambitieux, je pense.
Ça veut dire que pour vous, en tant que professeur en mécanique aéronautique et finalement spécialiste, on va dire, des éoliennes, des grandes, cet arbre à vent, c'est une fausse bonne idée ou c'est vraiment une bonne idée ?
Alors, moi, je pense qu'il y a une bonne idée dans le design, dans le capital sympathie, dans le produit, on va dire.
Elles sont moins moches que les autres, ça, c'est clair.
Ça, c'est indéniable. Encore qu'une éolienne, moi, maintenant, je suis peut-être biaisé, je trouve ça assez joli.
Assez oui, tout à fait.
Mais d'ailleurs, ce consortium qui s'est créé autour de cet arbre se compare un petit peu à des initiatives comme Steve Jobs ou Apple ou des compagnies comme ça qui ont réinventé certains objets du quotidien et qui ont permis à ces objets de percer. Donc pourquoi pas, ça c'est tout à fait louable. Et je pense qu'à petite échelle, pour des petites applications comme ce qu'ils décrivent, c'est jouable. Maintenant, je pense qu'il y a des solutions plus efficaces, vraiment pour produire beaucoup plus, qui sont peut-être moins jolies, mais qu'il y aura moyen d'intégrer quand même aussi relativement bien dans le milieu urbain, au-dessus de bâtiments ou dans des zonings industriels.
Voilà, mais vous l'avez dit, l'éolien urbain et le mini-éolien, ce sont vraiment des recherches qui en sont leur début aujourd'hui.
Oui, petit éolien se développe plus, on va dire, dans le sud de l'Europe, où ça a été un peu plus encouragé qu'ici. Ici, on a un petit peu de retard à refaire. Oui, ce sont des solutions qui ont été un peu moins encouragées, par exemple, que le photovoltaïque récemment.
Allez, en tous les cas, si l'envie vous prend d'aller découvrir en vrai cet arbre à vent, eh bien, sachez qu'un prototype se trouve sur l'île d'Oléron et puis l'autre se trouve à Pleumeur-Boudou. C'est dans les Côtes d'Armor. Merci beaucoup, Philippe Châtelain, pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes professeur en mécanique aéronautique à l'UCL, que vous êtes spécialiste des éoliennes. Merci d'avoir été avec nous donc cet après-midi dans Utopia. C'est Guibert Delmarmol qui est notre invité dans quelques instants.
Yasmine Moudaka, Utopia.
Il est 15h14, vous écoutez Utopia sur la première. On est ensemble jusqu'à 16h avec notre invité Guibert Delmarmol. Bonjour Guibert.
Bonjour Yasmine.
Merci d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes économiste de formation, vous avez dirigé plusieurs entreprises et vous vous intéressez aujourd'hui à l'économie régénératrice. On va l'évoquer dans quelques minutes. Vous êtes l'auteur de ce livre « Sans plus attendre ». Qui traduit un sentiment d'urgence, on y reviendra aussi. Avant toute chose, Guibert, l'utopie, pour vous, c'est quoi ?
Oh, moi, c'est une réalité possible du futur. Je me définis moi-même comme un utopiste pragmatique, extrêmement pragmatique, ou un dubitatif enthousiaste.
C'est important, l'utopie dans la vie, vous pensez, c'est essentiel ?
Je pense qu'on doit pouvoir rêver quelque chose avant de le créer, et on en a très besoin aujourd'hui.
C'est ce qui va faire que les choses vont pouvoir changer ?
Complètement, et j'en reviens à la phrase de Kennedy que vous avez citée en début d'émission. On ne peut pas changer le monde avec des croyances structurées ou simplement figées. On a besoin d'une part d'utopisme, de rêver et de mettre en action.
Voilà, de l'utopisme, de l'utopie, mais pas de la naïveté.
Complètement, c'est ce que j'appelle de l'utopisme pragmatique.
On vous retrouve dans quelques instants, Guibert Delmarmol. Sachez que si vous nous écoutez et que vous souhaitez réagir aux propos de cette émission, poser des questions, eh bien vous pouvez nous appeler au 02 737 40 98. C'est Christophe qui prend vos appels cet après-midi. Le courriel utopia@rtbf.be. Et puis vous pouvez bien sûr nous suivre également sur la page Facebook de l'émission.
Yasmine Moudaka, Utopia.
Le seul choix qui s'offre à nous aujourd'hui, c'est d'être soit un pessimiste qui rit, soit un optimiste qui pleure. C'est sur ces mots empruntés à Albert Camus que notre invité ouvre son livre. Un livre, Guibert Delmarmol, que vous dédiez aux enfants qui bâtiront le nouveau monde, mais aussi à tous les fêlés qui osent entreprendre pour une nouvelle humanité, car ils laissent passer la lumière d'un monde meilleur. Il faut vraiment être fêlé aujourd'hui pour envisager un autre demain, Guibert ?
Je pense qu'il faut être un peu fêlé pour entreprendre. Mais comme disait Michel Audiard, bienheureux les fêlés car ils laissent passer la lumière. Donc il faut pouvoir rêver, il faut pouvoir faire, il faut apprendre aussi à se tromper, accepter l'erreur, l'échec et recommencer. Donc ça demande une énorme dose de courage, une vision forte, chevillée au corps. Et il faut être un peu fêlé donc.
Un peu fêlé, solitaire ou solidaire ?
Je préfère solidaire parce que même si les gens peuvent se sentir solitaires là où ils sont, en fait une révolution silencieuse est en train d'émerger. J'ai l'occasion de beaucoup voyager, de rencontrer ces gens, ces acteurs du changement partout dans le monde. Ça émerge de partout et des vraies communautés sont en train d'émerger.
Voilà, c'est ce qu'on essaye de mettre en avant dans cette émission. La crise actuelle qui touche à la fois les secteurs financiers, économiques, climatiques, démographiques et j'en passe. Cette crise, selon vous, elle est surmontable. Mais de quelle manière ?
Ben, vous savez, pour les Chinois, l'idéogramme qui représente le mot danger contient en même temps dedans l'idéogramme qui représente le mot opportunité. Donc nous sommes face à une crise, ça veut dire qu'il y a une opportunité fantastique. Mais la crise est telle qu'on doit repenser l'ensemble du système, pour moi. Et un système qui doit s'appuyer dans un premier temps, c'est ce que je décris dans le livre, sur trois axes majeurs. Un, pouvoir redévelopper une autonomie sur les fondamentaux de la société, c'est-à-dire l'alimentaire, rapprocher la production de la consommation, l'énergie, produire beaucoup plus là où on est, et même la finance, on y viendra peut-être dans un moment. Le deuxième chose, c'est de mettre en place ce que j'appelle une économie régénératrice. Je pense qu'il est trop tard que pour n'être que durable. Nous avons trop impacté la planète. Et une économie régénératrice, c'est tout à fait possible. Mmh. C'est en train d'émerger, c'est-à-dire créer plus de valeur pour la collectivité qu'on en consomme, qu'on en détruit. Et puis tout ça ne sera viable dans la durée que si on change le modèle de l'éducation, parce que ces enfants qui vont devoir construire un monde totalement nouveau vont devoir apprendre à penser différemment et à agir très différemment.
Vous dites d'ailleurs que 65% des métiers qui s'offriront aux enfants d'aujourd'hui ne sont pas encore nés, qu'ils seront à inventer.
Oui, complètement. Ben, on en revient à ce qui est en train d'émerger au niveau de l'économie. Je parle à un moment dans l'économie d'une économie collaborative, qui est basé sur à la fois les réseaux sociaux, les ruptures technologiques de l'Internet et autres. C'est tous des nouveaux métiers qui vont émerger, qui n'existent pas encore, qui vont demander d'autres savoirs et d'autres compétences. Ces métiers-là devront être non seulement créés, mais remplis par ces enfants.
Alors dans ce livre, sans plus attendre, Guibert Delmarmol, vous détaillez évidemment les trois axes que vous venez de citer par le biais d'exemples, donc d'alternatives possibles pour un mieux. Ce qui est dingue, c'est que ces alternatives, elles existent déjà, qu'il y a des exemples qui, à travers le monde, prouvent leur efficacité et leur durabilité. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il n'y a plus qu'à se pencher quelque part pour aller cueillir toutes ces alternatives qui existent ? Et pour trouver des solutions ?
D'abord, il faut s'ouvrir, il faut peut-être écouter votre émission, puis lire des livres, regarder la télévision, de temps en temps sortir dans la rue et discuter, je dirais, avec les différentes communautés. Les choses existent. Les choses existent. La chose la plus importante, c'est de, je pense, de comprendre que la solution est en nous, d'abord. De ne plus attendre que ça vienne de l'extérieur.
Il n'y aura pas de sauveur, c'est ce que vous dites.
Il n'y aura pas de sauveur. Ouais. Je dis, nous sommes les sauveurs de la situation. Et je pense que ce changement de civilisation, ce basculement positif, sera d'abord le fait de citoyens et d'entrepreneurs. C'est ce que je vois partout dans le monde. Il n'y a pas besoin d'être surdiplômé ou quoi que ce soit. C'est face aux problèmes auxquels on est confronté, l'impact que ça a dans notre quotidien. Qu'est-ce que je fais ici, maintenant, avec ma famille, avec mes voisins ? Et c'est en train d'émerger.
La première chose à faire, c'est ce que vous écrivez dans votre livre, la clé c'est d'offrir à chacun ce qui fonde l'humanité, c'est la dignité humaine. Ça veut dire que jusqu'ici, ça n'a pas été, l'humanisme finalement n'a pas été un fondement de base sur lequel se sont construites les sociétés actuelles.
Je pense que notre société est dans l'excès aujourd'hui. Oui. Et c'est un ancien dirigeant, donc un entrepreneur qui vous lit. Je pense que le modèle capitaliste a été beaucoup trop loin. Il est devenu, je veux dire, cannibale et suicidaire, c'est-à-dire avec l'impact qu'il a à la fois sur l'humain globalement et sur l'environnement. Mmh. Mon propos n'a rien de politique, c'est un constat. Le modèle ne fonctionne plus. Pour qu'on ait une humanité en harmonie, il faut effectivement pouvoir offrir la dignité humaine à chacun. Et pour moi, ça s'articule autour de quatre axes majeurs qui sont, un, l'accès à la nourriture. Nous avons la capacité de nourrir durablement 9 milliards d'individus.
Mmh. Ça, c'est une certitude, c'est prouvé.
J'en parle dans le livre, ouais. On en parlera peut-être tout à l'heure. Ce sont des avis scientifiques qui le disent. Durablement, je veux dire, sans impacter la planète. Mmh. Or, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a quasiment 1 milliard de personnes qui sont sous le seuil de la faim, qui n'ont pas assez à manger. Et on a aussi 800 millions de personnes qui souffrent de diabète ou d'obésité. Donc, on a un problème. Donc, le premier axe, c'est l'accès à la nourriture. Le deuxième axe, c'est avoir un toit, mmh. avoir accès, c'est pas tellement accès à la propriété, c'est avoir un lieu où on peut se poser et puis avoir une famille, les protéger, grandir. La troisième chose, c'est les soins de santé. Et la quatrième chose qui est probablement la plus importante, c'est l'accès à l'éducation. Mmh. Parce qu'on considère souvent que dans notre humanité, il y a quatre mots qui sont guerre, misère, pandémie et le pire de tous qui est l'ignorance qui génère les trois autres. Donc si on peut repenser l'éducation, ce qu'on enseigne, comment on l'enseigne, la franchir des faux dogmes, on règle l'ensemble des problèmes. Ces quatre points-là sont pour moi les piliers de la dignité humaine.
Et ils ont le même niveau, il n'y en a pas un qui est dominant par rapport à l'autre, qui est prioritaire par rapport à l'autre.
Non, c'est itératif.
Guibert Delmamol, vous êtes notre invité cet après-midi. On vous retrouve dans quelques instants pour évoquer notamment cette autonomie alimentaire, l'une des pistes pour changer les choses. On vous retrouve dans quelques instants, donc le temps de rappeler le numéro de téléphone 02 737 40 98.
Rejoignez le cercle Utopia sur les réseaux sociaux.
Guibert Delmamol est notre invité cet après-midi dans Utopia, avec lui jusqu'à 16h. On évoque notamment les pistes qu'il pose dans ce livre, sans plus attendre, pour un nouveau monde. Guibert Delmamol, on le disait il y a quelques instants, l'une des clés, c'est l'autonomie alimentaire. C'est l'un des premiers besoins humains. Comment on arrive aujourd'hui, avec tout ce qui existe aujourd'hui, justement, à une autonomie alimentaire?
Je pense qu'il faut dissocier le problème entre le nord et le sud. Au nord, on a une agriculture qui est intensive, mais qui est extrêmement impactante pour les sols en matière de pollution et autres. Donc il faut repenser ça. Mais ce qu'il faut faire, c'est rapprocher la production de nourriture de la consommation. On dit que le futur appartient aux villes et plus aux nations. Parce qu'aujourd'hui, plus de 50% de la population mondiale vit déjà dans les villes. Mmh. Et ça va en grossissant. Donc, il y a urgence à rapprocher l'agriculture des villes. C'est pour ça que l'on voit l'émergence un peu partout de ce qu'on appelle l'agriculture urbaine, qui se décline sous différentes formes. D'abord, c'est de réimbriquer ce qu'on appelle la ceinture verte autour des villes, beaucoup plus dans la ville, beaucoup plus proche des villes, avec une production qui est faite pour nourrir la ville, du maraîchage principalement. La deuxième chose, vous voyez émerger partout, dans tous les pays, ce qu'on appelle également les toits verts.
Oui.
Il y a beaucoup de villes aux États-Unis partout, et ça démarre en Belgique également, où on installe les potagers sur le toit d'immeubles. La troisième chose qui est en train d'émerger également, ce sont des immeubles fermes. Alors ça pose un autre problème par rapport à l'aspect écologique, mm-hmm. mais c'est une réalité à Hong Kong, à Singapour, à New York. Et puis aussi une chose, c'est la réappropriation par les citoyens des espaces verts pour les transformer en zone de maraîchage ou plantage de fruits.
Ça se fait à Bruxelles aussi.
Ça se fait à Bruxelles, je sais. Bruxelles
à Liège, à Charleroi. Oui.
Et ça se fait partout dans le monde. Alors ça ne répondra probablement pas à l'ensemble des besoins d'une ville, mais on commence à arriver à des choses qui sont tout à fait substantielles et intéressantes. Pourquoi ? Parce que quand vous mariez, par exemple, la couverture des toits avec du maraîchage, que vous intégrez des systèmes comme la permaculture, et les nouvelles données montrent que c'est extrêmement productif. J'accompagne une ferme en Normandie qui fait de la permaculture et qui obtient un rendement 10 fois supérieur à l'approche normale. Eh bien, on voit qu'on commence à avoir un faisceau de probabilités, de solutions qui vont pouvoir tendre vers cette autonomie alimentaire, ou en tout cas s'en rapprocher. Ce n'est pas un rêve utopique du tout. vous regardez le plan directeur de New York à l'échéance de 2030, on est en plein dedans.
Mais ça signifie alors que le côté mondialisation, ici en l'occurrence de l'agriculture, c'est terminé, qu'il faut revenir à un niveau plus local finalement, et que c'est grâce à des expériences et des initiatives de proximité que les choses vont évoluer et vont pouvoir changer.
Ouais, il y a deux choses dans ce que vous évoquez. C'est que moi, je pense que le monde de futur sera local. Mmh. Il restera global parce que c'est peut-être tant mieux, parce qu'on a besoin de cette globalisation. Il faut l'utiliser intelligemment pour l'échange de savoir, pour le fait d'avoir des communautés partout. Mais sur les besoins fondamentaux, il sera beaucoup plus local, effectivement. Ceci dit, il n'empêchera jamais que, je veux dire, qu'on fasse venir de la viande d'Argentine. Chacun sera libre de son choix ou du blé d'Ukraine. Mais pour les fondamentaux, il y a une relocalisation qui est nécessaire et qui est en route.
Qui est en route, qui se manifeste de différentes façons. Vous avez déjà cité plusieurs exemples. Est-ce que ce sont des exemples qui sont adaptables à chaque situation, ou est-ce qu'on pourrait définir des modèles justement à adapter de manière, entre guillemets, uniforme à chaque petite entité ?
Je pense que c'est du sur-mesure. Ouais. On peut embrasser la philosophie, mais si vous prenez l'exemple des tours fermes, donc des buildings qui sont transformés en fermes, alors, très souvent, on nous dit oui, mais c'est dans les villes du futur, c'est Hong Kong, Singapour. Ça existe au Burkina Faso également, une ferme low cost sous forme de différents étages. Donc, la philosophie reste la même. Comment est-ce qu'on rapproche la production de la consommation, mais comment est-ce qu'on le décline par rapport aux spécificités locales ? Ça, c'est l'enjeu.
Mmh. Utopia.
Il est 15h33, Utopia, jusqu'à 16h avec notre invité cet après-midi, Guibert Delmarmol, pour évoquer donc ce livre Sans plus attendre, paru chez Care Éditions. Guibert Delmarmol, on évoquait l'autonomie alimentaire qui est l'un des axes essentiels pour aller vers un renouveau, vers un autre monde, le nouveau monde comme vous l'appelez. Un autre axe important est celui de l'autonomie énergétique, et vous dites même qu'elle est que cet axe-là est tout aussi crucial que l'autonomie alimentaire. Pourquoi ça ?
Ben écoutez, j'ai eu la chance de passer pas mal de temps dans les pays du Sud, également dans les campagnes désaffectées. Si vous avez l'électricité, si vous produisez l'électricité là où vous êtes, très souvent vous avez accès à l'eau. Il suffit de creuser, vous avez une pompe. Vous avez accès à l'eau, vous avez accès à la nourriture. Et de façon plus récente et tout aussi importante, vous avez accès à l'éducation, parce que le e-learning, ce qu'on appelle l'éducation par Internet, est en train de se développer d'une façon phénoménale. Donc pour moi, l'accès à l'énergie partout là où vous êtes localement est un enjeu majeur.
Voilà, vous dites que c'est même, ça devrait être un droit humain fondamental.
Complètement, oui.
Comment on fait ça ? Comment est-ce qu'on arrive finalement, où on tend vers ce que ça devienne un
Les choses qui sont intéressantes, c'est qu'il y a des exemples concrets qui existent. Et mon propos, naturellement, on est dans une mission qui s'appelle Utopia, dont je vais me projeter un peu plus loin dans le futur, c'est que les maisons puissent être actives, c'est-à-dire produire plus d'électricité qu'elles n'en consomment. C'est déjà en train d'arriver. Il y a des quartiers à Londres, il y a des quartiers à Fribourg, il y a des quartiers partout aujourd'hui où on conçoit des immeubles, j'en parle dans le livre, où l'immeuble produit plus d'électricité qu'il n'en consomme. Donc ça, c'est une première chose. Mais une fois que vous avez l'immeuble, vous avez le quartier, et puis vous avez la ville. Alors, c'est un faisceau de solutions qui permettent ça. Il y a des îles au large de l'Écosse qui sont complètement autonomes déjà, où je sais qu'ils ont pris comme solution le solaire, l'éolien et l'hydrolien. Ça dépend vraiment de l'endroit où vous êtes et par rapport à ce qui s'offre à vous. Mais ces choses existent déjà. Ce que je dis dans le livre, moi, qui est extrêmement important, il me semble, on peut parler d'hydrolien, de solaire et autres, mais il y a deux énergies qui sont prioritaires, disponibles partout dans le monde instantanément. La première, c'est le solaire. Il faut savoir qu'on utilise en une journée ce que la Terre met aujourd'hui 10 000 jours à produire quand on utilise le fossile. Or, le soleil nous envoie tous les jours 500 fois plus d'énergie qu'on en consomme. Donc c'est une démarche tout à fait logique. Et je pense que les ruptures technologiques qui arrivent, basées entre autres sur les nanotechnologies, basées entre autres sur l'usage du graphène et sur l'intégration du biomimétisme, s'inspirer de ce que fait la nature, va nous permettre dans les toutes prochaines années une accélération exponentielle de l'efficacité des rendements solaires. Donc c'est en train d'arriver, ce qui va permettre, là où vous êtes, de consommer du solaire de façon quasiment infinie. Et je cite une deuxième source d'énergie locale qui est plus surprenante, qui est ce que j'appelle l'énergie électromagnétique.
Mmh. Alors, c'est l'énergie libre, c'est ça?
Oui, entre autres.
C'était ma question. Oui.
Il faut savoir que l'électromagnétisme existe partout, dans le corps et partout. Et c'est un domaine que j'ai découvert un peu par hasard en visitant des installations dans la Silicon Valley, d'une entreprise qui s'appelle Tesla Motor. Mmh. Tesla Motor qui est connue aujourd'hui parce qu'ils ont inventé la première vraie voiture électrique. Et en discutant avec les responsables, j'ai redécouvert qui était Nikola Tesla. Nikola Tesla, probablement le Léonard de Vinci du XXe siècle, méconnu du grand public, mmh, et qui est à l'origine du courant alternatif, entre autres choses, mais qui est aussi à l'origine de 900 brevets. Rien ne ressemblerait à notre monde aujourd'hui sans Nikola Tesla, que ce soit les radars, la radio, le téléphone. Or, lui avait déjà travaillé sur ce concept d'énergie radiante, d'énergie libre et d'énergie électromagnétique. Et donc, moi, la seule chose que je fais dans mon livre, c'est que j'invite les académies à se repencher là-dessus.
Voilà, ça c'est pour l'énergie. On a une question d'un auditeur qu'on va vite prendre. C'est Boris qui nous envoie un courriel et qui dit « Que pensez-vous, parce qu'on n'aborde que les énergies renouvelables, que pensez-vous de la fusion nucléaire ?»
Je ne suis pas un spécialiste, je suis un perspectiviste. Donc il faudrait faire venir un physicien.
Oui.
Moi j'ai mis en perspective ce que j'ai découvert, ce que j'ai vu. Dans le livre, je parle de différentes choses. Mais j'essaye de me concentrer sur des énergies qui ne génèrent pas d'externalités négatives potentielles. Le solaire n'en génère pas et l'électromagnétisme est omniprésent. Donc c'est pour ça que je n'ai pas abordé cet aspect-là.
Voilà, on vous enverra la question complète, qui est plus complexe effectivement, de la part de cet auditeur. On a évoqué l'énergie, malheureusement on va survoler rapidement puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, les grands axes qui sont développés dans ce livre, Guy Berdel-Marmol, sans plus attendre. Et on a parlé de l'énergie, on a parlé de l'autonomie énergétique, de l'autonomie alimentaire. Il y a aussi le côté dont on a déjà évoqué, qu'on a déjà évoqué plusieurs fois, qui est l'économie régénératrice. Vous l'avez dit, ça n'est même plus le temps de l'économie durable, il faut passer à une régénération des moyens. C'est quoi ça exactement? Ça veut dire quoi?
Pour moi, une économie régénératrice, c'est une économie qui s'articule autour de quatre axes principaux. Un, elle est relocalisée, on l'a évoqué, très certainement au niveau des fondamentaux que sont l'alimentation et l'énergie. La deuxième chose, c'est une économie qui est collaborative. C'est en train d'émerger. Une économie collaborative, c'est tous les systèmes open source, ce qu'on appelle Wiki, c'est les eBay, c'est les plateformes d'échange entre consommateurs et autres. Tout ça est en train d'émerger. C'est une économie qui est également ce que j'appelle d'usage plutôt que de propriété. Je vais vous faire une démonstration assez simple. Fondamentalement, on n'a pas besoin d'avoir la propriété d'un frigo. On a besoin d'avoir l'usage d'un frigo et de la solution qu'il propose. Si vous intégrez ça, ça veut dire que le fabricant du frigo ne pourra plus jamais mettre dedans de l'obsolescence programmée et qu'au bout de 5 ans, il est obligé de reprendre ce qu'il vous a fourni. Et ça veut dire qu'il s'arrangera pour recycler à l'infini le produit. Et on en arrive au quatrième point d'une économie régénératrice, qui est une économie circulaire, où les déchets de l'un sont le combustible de l'autre et tout est recyclable du début jusqu'à la fin. Alors une économie régénératrice, je dis, elle est localisée, relocalisée, collaborative, elle est d'usage et non de propriété, et elle est circulaire. Quand vous regardez ça, vous vous rendez compte que c'est une économie qui est bio-inspirée, parce que c'est comme ça que fonctionne la nature. La nature, par définition, elle est locale, elle est collaborative, les arbres ne savent pas grandir sans les champignons, elle est d'usage et pas de propriété, et elle régénère tout. Alors on se dit, mais c'est un doux rêve. Non, vous avez, je pense, abordé le sujet du biomimétisme dans cette émission. C'est la solution à énormément de problèmes. On vit sur un astre qui a 4,5 milliards d'années. Si vous ramenez ces 4,5 milliards d'années à 24 heures, l'homme apparaît à 23 heures, 59 minutes, 55 secondes. Vous imaginez la courbe d'expérience qu'on a derrière.
Utopia sur la première.
Dans quelques minutes, on aura le plaisir de retrouver Caroline Veit pour sa chronique Utopia, mais on reste pour le moment avec notre invité du jour, Guy Berdel-Marmol, pour son livre Sans plus attendre. Alors, on a évoqué différents axes déjà, Guy Ber, l'autonomie alimentaire, énergétique, on a parlé de l'économie aussi, économie régénératrice, c'est vraiment la solution que vous prenez pour le futur. Il y a le volet qui est tout aussi important que les autres, qui est celui de l'éducation dont on n'a pas encore parlé. Alors, qu'est-ce qu'on change dans cette éducation?
Je voudrais repartir de la phrase de Montaigne qui disait « L'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais c'est un feu qu'on allume. » Donc, je pense qu'il faut rebooster la créativité, il faut rechanger énormément de choses, avoir une approche beaucoup plus holistique, beaucoup plus globale, et permettre aux enfants, en fait, d'apprendre au-delà des dogmes ce que être humain veut dire et quelles sont les règles, je veux dire, à la surface de cette terre. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois qu'on doit même, je veux dire, se repencher sur ce que disent les neurosciences sur le principe d'apprentissage. Les neurosciences disent ceci: pour pouvoir transformer de l'information en savoir chez un enfant, il y a quatre points différents. La première chose, c'est capter l'attention. Comment est-ce qu'on capte l'attention ? Et ce premier point met en exergue l'importance d'avoir des professeurs qui sont des vrais mentors, qui créent l'envie. Le deuxième point que disent les neurosciences, c'est la force de l'expérimentation. Plutôt que d'avoir des élèves qui sont assis 8 heures par jour à absorber ce qu'on déverse en eux, comment est-ce qu'on pratique l'expérimentation ? Pourquoi ? Parce que quand vous entendez quelque chose, vous allez l'oublier. Quand vous expérimentez quelque chose, ça se grave en vous. Troisième élément que disent les neurosciences, c'est la force du rétrofeedback. Accepter l'erreur comme une courbe d'expérience. Accepter de se tromper. On a un gros problème en Europe avec ce sujet-là. Et la quatrième chose, c'est comment est-ce qu'une fois que vous avez capté cette information, vous l'avez transformée en savoir, eh bien, vous transformez ce qu'on appelle l'explicite en implicite. Il faut savoir que le cerveau humain, au bout d'un certain temps, lit aussi vite des mots longs que des mots courts, parce qu'il l'a intégré, ça va très vite. Et donc, c'est tout ce processus d'apprentissage qu'il faut revoir. Et ça nécessite pour moi plusieurs choses. Peut-être mettre plus l'accent sur les processus d'apprentissage que sur les processus d'évaluation. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas évaluer. Et puis aussi remettre l'enseignant, la fonction qu'il occupe au sein de la société civile, lui redonner ses lettres de noblesse.
Refaire des maîtres, comme on
les a appelés. Absolument. Il y a un très beau proverbe tibétain qui dit « Le plus grand maître n'est pas celui qui a le plus d'esclaves, mais celui qui génère à son tour le plus grand nombre de maîtres. » C'est vraiment là qu'on est. Ce n'est pas un vœu pieux, parce que quand on regarde les modèles qui fonctionnent le mieux, comme le modèle finlandais, la clé du système, c'est vraiment la place, la valeur et la reconnaissance qu'on donne aux professeurs dans la société civile. Donc ça, ce sont quelques-unes des pistes.
Guy Berdel-Marmol, quand on lit votre ouvrage, on en discutait hors antenne, finalement, c'est un peu une belle réunion de tout ce qu'on a évoqué tout au long de cette saison dans cette émission. Vous réunissez tout ça et vous mettez tout ça en perspective. La question qui pointe au bout de nos lèvres, c'est que d'une part, effectivement, vous l'avez dit, à la vue de tout cela, on voit qu'il y a une révolution silencieuse qui est en cours. Ceci dit, on se dit que cette révolution, elle est lente aussi. Or, sans plus attendre, le titre de votre ouvrage induit une certaine urgence. Quelle urgence y a-t-il aujourd'hui ou pas, finalement, à réagir ?
Il y a urgence parce que je pense qu'on est vraiment à la croisée des chemins. Il y a deux rapports qui sortent d'universités prestigieuses, comme Stanford ou le MIT, récemment de la NASA, qui disaient « on a un vrai problème, on va dans le mur ». Mais parallèlement à ça, on a des solutions qui sont en train d'émerger, qui sont souvent citoyennes et entrepreneuriales. Donc, c'est à nous de choisir vers où on fait pencher la balance. Mais c'est maintenant qu'il faut bouger. Et mon discours, dans le livre, est de dire « n'attendez rien de l'extérieur, soyez vous-même le changement, parce que c'est comme ça que les choses émergent ».
Et comment on bouge alors ?
La première des choses, c'est qu'il faut le vouloir. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut peut-être s'abreuver, s'inspirer de ce qui existe déjà. C'est pour ça que des émissions comme la vôtre ou d'autres ont un rôle sociétal extrêmement important. Et puis après, il faut faire un premier pas dans le domaine qui vous intéresse. Et très souvent, les gens font le premier pas dans le domaine très courant qui est la nourriture, l'agriculture, le maraîchage ou autre, ou bien simplement dans leur collectivité, dans leur communauté, ils se disent « mais moi j'ai un don, je veux en faire quelque chose, je le partage, je m'intéresse à l'économie collaborative ou autre ». Donc c'est trouver un point d'entrée et se mettre en mouvement.
Et vous dites aussi qu'il faut faire preuve de créativité, d'innovation et qu'il faut un indispensable supplément d'âme.
Je pense que fondamentalement, nous avons toutes les solutions technologiques pour résoudre les grands problèmes de ce monde. Le plus grand danger réside entre notre fossé technologique et notre fossé spirituel. Mon propos n'a rien de religieux, c'est la notion de sens et de valeur. Et donc, dans un premier temps, c'est d'un saut de conscience dont on a besoin, que les gens se rendent compte qu'autre chose est non seulement possible, mais être nécessaire, est en train d'arriver, se disent « mais moi, je peux faire partie de ce changement ». Donc, il faut arrêter de se morfondre. C'est trop tard que pour avoir peur. Il faut maintenant bouger, c'est là et les outils existent.
Mmh. Justement, les gens qui cherchent l'inspiration, parce qu'il y a ça aussi, qui sont prêts mais qui n'ont pas forcément... auprès de qui ils peuvent la trouver ? Vous l'avez dit, des lectures, etc. Mais il y a déjà des mouvements reconnus qui développent des projets.
Oui, bien sûr. Il y a des mouvements qui sont assez connus, comme les mouvements de la transition, oui. Les villes en transition. Au début, c'était... je dirais un petit cercle de pionniers illuminés. Aujourd'hui, c'est suivi par des centaines de villes. Je pense que Bruxelles même, et Liège, et toutes les grandes villes y participent dans certains quartiers. Donc il faut un peu chercher sur Internet, voir ce qui est en train d'émerger partout dans le monde, et puis se connecter à ces réseaux, se connecter à ces communautés, et puis assister. Il y a des conférences quasiment tous les soirs sur ces sujets-là. Il y a des initiatives de quartier dans toutes les villes, sur le maraîchage, sur l'enseignement et autres. Je pense qu'aujourd'hui, ça c'est le bon côté de la mondialisation, au travers de l'Internet, des réseaux sociaux, on a accès à l'information. Mmh. Mais il faut le vouloir, il faut se dire maintenant, je bouge.
Je vous pose cette question et je reprends les propos de Camus, les propos que vous citiez dans cet ouvrage. Le seul choix qui s'offre à nous aujourd'hui, c'est d'être un pessimiste qui rit ou un optimiste qui pleure. Vous êtes quoi, vous, Guy Berdel-Marmol ?
Moi j'aimerais bien être comme Kennedy. Vous pouvez reciter la phrase.
Alors la phrase, je la recite en bref. Nous avons besoin d'hommes capables d'imaginer ce qui n'a jamais existé.
Voilà.
Voilà. C'est ça que vous êtes ?
J'essaye d'être citoyen du monde, c'est déjà beaucoup.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi, Guy Berdel-Marmol. Je rappelle ce Merci. Livre passionnant, vraiment, qui fait vraiment un beau résumé de tout ce qu'on a évoqué, qui reprend les pistes concrètes qui existent déjà pour s'inscrire dans la transition et pour faire changer les choses, pour construire le monde nouveau, comme vous le citez, sans plus attendre, donc un ouvrage paru chez Kerr Éditions. Merci beaucoup.
Merci.
Jusqu'à 16h. Utopia sur la première.
Avec, je vous le disais, Caroline Veit et Utopia. Bonjour Caroline.
Bonjour Yasmine.
Alors dans Utopia, comme chaque semaine, eh bien vous nous faites découvrir un projet qui mêle art et utopie.
Et oui, et celui que je vais vous présenter aujourd'hui, il pourrait pourquoi pas constituer un petit arrêt sur la route des vacances, puisqu'il se situe près de Dijon, ou plus précisément de Besançon, c'est la Saline Royale d'Arc et Senans. Alors si je vous parle de Saline Royale en France, vous avez déjà un fameux indice, c'est pas un projet futuriste, que du contraire, puisque celui-ci nous ramène au XVIIIe siècle. Et cette saline, c'est en fait un projet de l'architecte Claude-Nicolas Ledoux, un homme de cour, architecte du roi, le favori de l'aristocratie éclairée, pour laquelle il réalise de nombreux projets, des châteaux, des hôtels particuliers, entre autres. C'est aussi un architecte philosophe, un homme qui pense guérir l'humanité souffrante grâce, accrochez-vous bien, à... l'architecture.
Voilà, c'est une piste créative et innovante.
Il dit qu'il n'existe pas un homme sur Terre qui ne puisse être secouru par un architecte. Alors c'était un érudit, auteur d'un véritable livre-testament intitulé « L'architecture considérée sous le rapport de l'art, des mœurs et de la législation ». Et dans cet ouvrage, il évoque des projets dont il a seulement rêvé, comme une maison traversée par une rivière. Et puis, il consacre de nombreux chapitres à la fameuse Saline dont je vous parle aujourd'hui, et dont on dit qu'elle se situe entre réel et imaginaire, et qu'elle doit être lue comme un conte. Mmh. Mais il ne faut pas croire que c'est un doux rêveur. Hein. C'était aussi un homme très très pragmatique.
Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette saline ?
Eh bien, pour bien la comprendre, il faut sans doute quelques indications. Elle a été construite pour le roi Louis XV. C'est, vous l'aurez compris, un endroit où on fabrique donc du sel. Et ce qui explique l'implication de Claude-Nicolas Ledoux dans le projet, c'est le fait qu'en 1771, il est nommé dans une fonction très lucrative, inspecteur des salines de Franche-Comté. C'est pas rien, puisque le sel à ce moment-là, c'est un monopole royal est l'une des principales ressources de l'État. Et dans la région qui nous préoccupe, la Franche-Comté donc, on exploite des sources d'eau salée souterraines, ce depuis l'Antiquité. Mais la source la plus importante, dans la ville de Salins, elle est en crise au XVIIIe siècle. La ville en fait est encaissée dans le creux d'une vallée et le bois qui sert à la fabrication du sel, donc pour chauffer les bassins, pour fabriquer aussi les tonneaux dans lesquels on le stocke, eh bien ce bois il commence à manquer autour de la ville. Et là, Ledoux, il a une idée. Au lieu de faire venir le bois à la ville, on va plutôt emmener l'eau salée au milieu d'une forêt, puisque le transport de l'eau coûte beaucoup moins cher que celui du bois. Mmh. Mais on ne va pas faire qu'amener l'eau, on va aussi reconstruire une cité dédiée entièrement à cette activité.
Une sorte de cité idéale, en fait.
Ben oui, exactement. Ouais. Le Doubs, comme d'autres après lui, dont on a déjà parlé ici, je pense à l'industriel Jean-Baptiste Godin au 19e, on se souvient du Familistère qui est ici à Bruxelles sur le canal, l'architecte Le Corbusier, dont on avait évoqué la cité radieuse à Marseille, eh bien lui veut aussi créer une cité qui offre un nouveau modèle social, celui d'une vie communautaire harmonieuse. Il est très proche des idées de son siècle, le siècle des Lumières. Pour lui, le beau engendre le bon et le bien. Il est persuadé qu'un homme qui grandit dans un bel environnement ne peut que devenir meilleur.
Alors, puisqu'il n'existe pas un homme sur Terre qui ne puisse être secouru par un architecte, sur le plan architectural, ça ressemble à quoi cette salle?
Eh bien, son plan, il est très particulier puisque cette véritable cité industrielle a été construite en demi-cercle selon une hiérarchie bien précise. Alors, pour que vous compreniez, on poste quelques images sur la page Facebook. Sur la diagonale, donc ce qui constituerait le milieu d'un cercle, si c'était un cercle complet, il y a d'abord le bâtiment de l'administration et de la direction de l'usine. À ses côtés, deux ateliers destinés à la fabrication du sel, on appelle ça les bernes. Et à côté des bernes, des bâtiments des agents du fisc, qu'on appelle les commis. Mmh. Et sur le pourtour du cercle, il y a quatre bâtiments destinés à loger les ouvriers et leurs familles. Et l'entrée dans ce demi-cercle se fait par un portique monumental. On est quand même dans une saline royale, il faut un peu de prestige. Et la forme choisie, ce demi-cercle donc, est très symbolique puisqu'elle évoque le théâtre antique. Le diamètre, c'est comme une scène vers laquelle convergent tous les regards. On regarde l'autorité et les ateliers. Et les habitations sont donc tournées vers cette scène comme des spectateurs. Donc j'évoquais le fait qu'il faut lire cette disposition dans sa symbolique. Et bien pour le Doubs, ce demi-cercle, c'est la représentation de la voûte céleste. Rien que ça, une forme aussi pure que celle du soleil dans sa course. Bon, là, on serait peut-être en droit de se dire qu'il plane un peu, mais c'est rationnel malgré tout dans le diamètre. Il y a donc tout ce qui est lié à la production à l'usine. Ça veut dire aussi que si un ouvrier veut voler du sel, et apparemment, ce n'était pas anecdotique à l'époque, en fait, quand il sort de l'usine, il est au milieu du demi-cercle et donc de la ville à la vue de tous. Voilà. C'est donc très difficile d'être malhonnête. Et toujours en ce qui concerne la rationalité du projet, on peut préciser que les bâtiments sont autonomes pour des questions de sécurité et d'hygiène. Donc s'il y a le feu par exemple, tout ne brûlera pas. Pareil en cas de développement de maladie, elle restera cantonnée dans un bâtiment. Mais en principe, la maladie n'a pas de raison de se développer dans cet environnement idéal. Le Doubs n'a d'ailleurs pas prévu d'hôpital pour sa cité, puisqu'ils ne sont pas du tout censés tomber malades. Ouais. Et puis ce qui est étonnant, c'est que toute la saline est entourée d'un mur de pierre, donc pour se protéger justement des brigands, des déserteurs et des ouvriers voleurs. Les ouvriers étaient d'ailleurs fouillés complètement s'ils voulaient sortir de cette cité.
On sait justement, Caroline, ce qu'est devenue cette cité après l'activité liée au sel?
Eh bien, le lieu a fermé ses portes définitivement en 1926. Il est passé par différentes phases. D'abord des ruines, des casernes. Il a servi de camp de concentration pour les gitans pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis aujourd'hui, eh bien, ce lieu a retrouvé un petit peu de son essence première, en quelque sorte, parce que c'est un lieu qui est lié à l'art et à l'utopie, justement. Par exemple, il y a une expo qui s'est terminée là, c'était au mois de mars, et qui s'intitulait Théâtre en utopie. Cette expo, elle évoquait bien tous les projets de théâtre utopique imaginés depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Il y a des ateliers aussi organisés pour les enfants qui s'appellent Utopti et dans lesquels ils sont invités, par exemple, à créer leur carte postale idéale, à inventer leur propre voyage. Ils ont aussi organisé en avril un colloque intitulé « Citoyens du monde, une utopie ?» Enfin bref, vous le comprenez, on reste vraiment dans le thème de l'utopie et ce lieu utopique, franchement, allez y faire un tour si vous êtes dans le coin. Et pour avoir les infos complémentaires, eh bien, je vous invite à regarder une petite vidéo très bien faite dans laquelle vous trouverez un complément à tout ce qui a été dit ici, parce qu'évidemment on ne peut pas tout dire. Notamment, on évoque différents projets conçus par le Doubs qui n'ont jamais vu le jour, mais dont on dirait qu'ils sont contemporains et pas du tout élaborés au XVIIIe siècle. Franchement, c'est incroyable. Ça vaut la peine. Jetez-y un petit coup d'œil.
Et on la met bien sûr en lien sur la page Facebook de l'émission. Caroline, merci beaucoup.
Merci, Yasmine.
Et puis, à mardi. Voilà, Utopia, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à l'équipe, Christophe Reculé, Carole Baquet et Daniel Scheck. On se retrouve demain avec le portrait de Jean Frison qui a créé Coprocin. Il fait partie de ces utopiens qui ont commencé à sauver la planète.
Podcast La Première.